puisque le Seigneur notre Dieu nous fait mourir et nous abreuve d'eau empoisonnée à cause de nos péchés contre lui. Nous espérions la paix, rien de bon. Le temps de la guérison, voici l'épouvante. Depuis Dan, le nord toujours, on perçoit le hennissement de ses chevaux, au cri retentissant de ses étalons. Toute la contrée est ébranlée, ils viennent dévorer le pays et ses biens, la ville et ses habitants. Voilà les ravageurs qui les ravagent. Si vous jouez le jeu de l'injustice, vous serez mangé par les grands. Or, voici que j'envoie contre vous, encore une autre image, des serpents venimeux, c'est repris à l'histoire du désert, hein, serpents venimeux du désert, contre qui il n'existe pas de charme. Pas moyen, pas d'incantation. Ils vous mordront, oracle du Seigneur, et sans remède. Il n'y a pas d'autre remède que Dieu, hein, que la remise à lui. Et c'est ce qui donne finalement, hein, chez saint Paul en tout cas, hein, il le souligne, une grande liberté intérieure. C'est-à-dire, je sais que je suis pécheur. Je sais que je retombe toujours dans mes fautes. Mais je suis un pécheur aimé et pardonné. Et si je m'efforce, ce n'est pas grâce à mes efforts. Si je m'efforce, c'est grâce à la grâce. C'est vraiment retourner la perception des choses et la mentalité. Et c'est important de voir que cela existe déjà chez les prophètes, énormément chez Jérémie, aussi chez le deuxième Isaïe, hein, surtout. La douleur m'envahit. Vous comprenez que le prophète, devant tout ça, il a de quoi se décourager. Se décourager. La douleur m'envahit, le cœur me manque. Voici le cri plaintif de la fille de mon peuple. La fille de mon peuple, c'est toujours Jérusalem. Hein. On a déjà vu souvent que les villes, surtout, étaient personnifiées, comme des femmes. Il veut dire justement que hein, la femme étant mère, celle qui représente la ville est considérée comme une mère avec beaucoup d'enfants. Voici le cri plaintif de la fille de mon peuple. S'élève de toute l'étendue du pays. Il n'est plus très grand, hein, le pays, un mouchoir de poche. Mais enfin, le Seigneur n'est donc plus en Sion, son roi n'y est-il plus? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs idoles, par ces néants venus de l'étranger? C'est une réflexion d'un scribe dans la marge qui est passée dans le texte. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. On voudrait bien pouvoir se dire sauvés, hein. Sauvés, une fois pour toutes, hein. Nous sommes en train d'être sauvés. Il y avait un... J'oublie son nom maintenant. Un exégète, Westcott, un exégète anglais du début de ce siècle, qui est un jour abordé, il s'appelait Westcott, qui a fait un beau commentaire sur Saint Jean, et qui est abordé dans la rue par un témoin de Jéhovah, ce que vous voulez, qui lui dit « Are you saved? Est-ce que vous êtes sauvé ?» Et lui, dans ses pensées, dit « Are you saved ?» dit, ce que tu me demandes, ça peut avoir trois significations. Si tu dis « Est-ce que tu es sauvé ?»« Sesos menos », c'est-à-dire un parfait grec, « Tu es tout à fait sauvé ?» Il dit « Ah non, hein? Certainement pas encore. » Si « Es-tu sauvé ?» c'est un aoriste, c'est-à-dire un parfait, un passé, sautais-je. Là, il dit, oui, j'ai été sauvé par le Seigneur Jésus. Mais je suis sauvé en me laissant sauver tous les jours. Il prend simplement le même mot en grec, mais qui peut être au parfait, accompli, ou bien au passé simple, ou bien au présent. Je continue d'être sauvé. Bien, c'est ça. Nous continuons d'être sauvés. Et c'est là notre grâce. Ce n'est pas d'avoir été sauvé par Jésus. C'est notre assurance, mais à charge pour nous de nous laisser sauver tous les jours. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. De la blessure de la fille de mon peuple, je suis blessé. Je suis blessé de cette blessure du monde. Et je suis conscient de cette blessure. Je la prends sur moi. Je reste accablé. L'épouvante me tient. N'y a-t-il plus de baume en Galate ? Galate, c'était réputé pour le pays, hein, où on pouvait trouver de la pommade pour tout, universel. N'y a-t-il là aucun médecin ? C'est fini ? Oui, pourquoi ne fait-elle aucun progrès, la guérison de la fille de mon peuple ? C'est à croire qu'il n'y a plus de remède. Qui changera ma tête en fontaine et mes yeux en source de larmes, que je pleure jour et nuit, les tués de la fille de mon peuple. Et donc voilà le prophète qui s'apitoie sur ses frères et ses sœurs qui ne perçoivent plus la vérité de Dieu présent dans leur détresse. Et puis on a ajouté d'autres oracles. Qui me fournira au désert un gîte d'étape, que je puisse quitter mon peuple et loin d'eux m'en aller? Car tous ils sont des adultères, un ramassis de traîtres. Ils bandent leur langue comme un arc. C'est le mensonge et non la vérité qui prévaut en ce pays. Oui, ils vont de crime en crime, mais le Seigneur, ils ne le connaissent pas. Et ici, on sent l'intérieur de la sensibilité de Jérémie. Il est à la fois extrêmement proche de son peuple, et il ressent cette impuissance de son peuple à vivre dans la vérité. Et en même temps, il est très présent à Dieu. Et il ressent en quelque sorte cette blessure de Dieu. Mais le Seigneur, ils ne le connaissent pas. Que chacun soit en garde contre son ami. Méfiez-vous d'un frère, car tout frère joue le rôle de Jacob. Hein, Jacob qui se fait passer pour son frère. Tout ami répand la calomnie, l'un dupe l'autre. Ils ne disent pas la vérité. Ils ont habitué leur langue à mentir. Ils sont pervertis, incapables de revenir. Fraude sur fraude, tromperie sur tromperie. Ils se refusent à connaître le Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur des armées, voici, au creuset, je vais les éprouver. Mais comment traiter leur méchanceté? Leur langue est une flèche meurtrière, les paroles de leur bouche des tromperies. On souhaite à son prochain la paix, mais dans son cœur, on lui prépare un piège. C'est chacun qui doit commencer à vivre la paix. Si on commence par déblatérer son prochain, par lui faire du tort, on sème la zizanie. On souhaite à son prochain la paix et dans son cœur, on lui prépare un piège. Shalom. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Et pour ces actions, je ne les visiterai pas. Visiter, c'est venir régler ses comptes. Hein. Le terme de visiter, pacat, lifkod, ça signifie passer en vue les troupes. Mais passer en vue les troupes, après la bataille, c'est dire, tiens, celui-là a bien agi au combat. Hein. L'autre s'est enfui, quand ça devenait difficile. Donc, en même temps, c'est régler les comptes. Comment on a fait? Et pour cela, je ne les visiterai pas. La visite du Seigneur est toujours terrible et douce. Terrible parce qu'il nous dépasse totalement, et douce parce qu'il nous aime aussi totalement. Pour ces actions, je ne les visiterai pas, oracle du Seigneur. De pareils gens, je ne tirerai pas vengeance, et vous savez ce que c'est que la vengeance du Seigneur. C'est je redoublerai mes prodigieux prodiges. Je leur ferai encore plus de bien. Pour les montagnes, élevées plaintes et lamentations. Pour les packages du désert, un chant de deuil. Car ils sont incendiés. Nul n'y passe. On n'y entend plus les cris des troupeaux. Oiseaux du ciel, bétail, tout a fui. Tout a disparu. Il aime bien d'alterner, ses visions de Jérusalem avec toute sa grandeur, et puis il n'y a plus rien. La désolation, après le passage des armées. Et je veux faire de Jérusalem un tas de pierres, un repaire de chacals, des villes de Juda une solitude où nul n'habite. Vous retrouvez exactement la même chose dans les chapitres 34-35 d'Isaïe, par exemple. Quel est le sage qui comprendra ces événements et celui que la bouche du Seigneur a chargé de publier? Pourquoi le pays est à bas, incendié, comme le désert, et nul n'y passe? Pourquoi l'homme veut-il la destruction? Pourquoi l'homme prépare-t-il sa propre destruction? Regardez la convention de Rio, hein? On dit, bon, il faut faire tout ce qu'on peut pour diminuer la pollution, et puis c'est tout. On ne fait rien. Quel est le sage qui comprend ces événements et celui que la bouche du Seigneur a chargé de publier? Pourquoi le pays est à bas, incendié comme le désert, et nul n'y passe? Or, le Seigneur a dit, c'est qu'ils ont abandonné ma loi que je leur avais proposée. Ils n'ont pas écouté, de nouveau écouté, ma voix pour la suivre. Mais ils ont suivi le penchant de leur cœur endurci. Ils ont suivi les Baals que leur père leur avait fait connaître. Autrement dit, chacun a voulu faire selon sa volonté. C'est pourquoi ainsi a parlé le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais leur donner à ce peuple de l'absinthe à manger et de l'eau empoisonnée à boire. Je les disperserai parmi les nations inconnues d'eux, comme de leurs pères, et j'enverrai l'épée à leur poursuite jusqu'à ce que je les aie exterminés. C'est pour quand? Voilà, appelez les pleureuses, qu'elles viennent. Mandez les plus habiles, qu'elles arrivent. Vite, qu'elles entendent sur nous une élégie. C'est pas pour après, hein, c'est pour maintenant. C'est déjà ce qui se prépare. Que les larmes coulent de nos yeux, que nos paupières ruissellent de pleurs. Oui, une lamentation se fait entendre de Sion. On voit que le prophète voit que les agissements de Joachim mène le pays à la ruine. Il n'y a plus aucune cohérence dans le gouvernement. On ne sait plus du tout où on va. Tantôt on va vers Babylone, tantôt on va vers l'Égypte. Que les larmes coulent de nos yeux, que nos paupières ruissellent de pleurs, oui, une lamentation se fait entendre de Sion. Ah, comme nous sommes ruinés, couverts de honte. car il nous faut quitter le pays, abandonner nos foyers, les mains sur la tête, envoyés en déportation. Car on sait bien que c'est l'agissement des Assyriens comme des Babyloniens, la déportation. La galoute, ou la gola. Galoute vient de la racine de la nudité, gala. Donc on est envoyé tout nu. On n'a plus rien. On a perdu tout. Femme, écoutez donc la parole du Seigneur. Que vos oreilles reçoivent la parole de sa bouche. Apprenez à vos filles cette élégie. Enseignez-vous l'une à l'autre cette lamentation. Commencez par vous lamenter. La mort a grimpé par nos fenêtres. Elle est entrée dans nos palais. Elle a fauché l'enfant dans la rue, les jeunes gens sur les places. Les cadavres des hommes gisent comme du fumier en plein champ, comme des gerbes derrière le moissonneur. Et personne pour les lier. Apprenez cette lamentation. Réfléchissez. Où allons-nous? Vers quoi allons-nous? Et donc, un oracle sur la vraie sagesse. Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Le glorifier revient souvent dans l'épître aux Romains aussi. Ne se glorifie pas dans sa sagesse ou bien dans sa piété ou dans son observance. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais qui veut se glorifier, on croit entendre saint Paul dans l'épître aux Romains, mais qui veut se glorifier, qu'il trouve sa gloire en ceci. Avoir de l'intelligence et me connaître. Connaître le Seigneur, faire l'expérience profonde de son intimité. Car je suis le Seigneur qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Donc si le droit, la justice et la bonté n'existent pas sur la terre, c'est que vous m'avez mis dans le coin. Oui, c'est en cela que je me complais, oracle du Seigneur. Et on a mis encore plusieurs autres oracles. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je visiterai tout circoncis qui ne l'est que dans sa chair. Autrement dit, tout Israélite, mais tout Israélite qui ne fait que des observances extérieures, extérieurement. L'Égypte, Juda, Édom, les fils d'Ammon, Moab, toutes les tempes rasées, ce sont les Arabes, qui habitent le désert. Je vais passer, je vais faire ma visite un peu partout. Car tous ces peuples-là, et donc toute la maison d'Israël, ont le cœur incirconcis. Et il met Israël sur le même plan que les nations. On comprend que les gens auxquels il raconte tout ça ne soient pas très contents. Écoutez, encore une fois, la parole que le Seigneur vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. Ne vous habituez pas à la voie des nations. Jésus dira la même chose. Ne suivez pas un chemin de nations. C'est-à-dire, n'agissez pas comme eux qui n'ont pas de Dieu. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, même si les nations en éprouvent de la terreur. Oui, la terreur des peuples est un pur néant. Ce n'est que du bois coupé dans une forêt, travaillé par le sculpteur, ciseaux en main, puis enjolivé d'argent et d'or. Une idole, vous savez, c'est pas terrible, Les statues. De l'argent en feuilles importées de Tarsis et de l'or d'Ophir. C'est du matériel, tout ça. comme la plupart des choses, hein, qui sont nos idoles. Depuis le frigidaire jusqu'à l'ordinateur, etc., etc. Tout ça peut devenir idole. Un ouvrage de sculpteur et de main d'orfèvre, tous ne sont qu'œuvres d'artistes. On les habille de pourpre violette et rouge, avec des clous, à coups de marteau, on les fixe pour qu'ils ne bougent pas. Donc vous retrouvez des choses tout à fait semblables dans le deuxième Isaïe. La fabrication d'idoles. Ça vous prend beaucoup de temps, et finalement, ça ne sert à rien. Tel un épouvantail dans une melonnière, il ne parle pas. Il faut les porter, il ne marche pas. N'en ayez pas peur, ils ne peuvent faire du mal, et du bien, pas davantage. Donc ce sont les fameuses diatribes contre les idoles. Nul ne t'est comparable, Seigneur. Tu es grand. Grand est ton nom puissant. On dirait qu'il a lu le deuxième Isaïe. Hein? Tant le deuxième Isaïe est un peu postérieur. Qui ne te craindrait, roi des nations? Oui, c'est là, tondu. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul ne t'est comparable. Pouvoir discerner le vrai Dieu de ce qui ne l'est pas. Pouvoir discerner nos intentions, celles qui sont pures et celles qui le sont moins. C'est difficile d'avoir une intention tout à fait pure. Impossible peut-être. Tous. Tant qu'ils sont, ils sont bêtes et stupides. L'instruction que donnent les néants est dénuée de sens. Mais le Seigneur est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant. Il est le roi éternel. Me laisser visiter par le Seigneur lui-même. C'est quand même ce qui nous arrivera à tous. Autant commencer maintenant. Quand il s'irrite, la terre tremble. Il veut dire que le Seigneur est élevé au-dessus de nous. Et pour Jérémie, c'est un peu ça qui est terrible. Dieu est trop lointain et trop proche. Néer, dans son livre sur Jérémie, dit cela de façon très, très juste. Et il compare ici Jérémie à Job. Et vous verrez qu'il y a encore d'autres raisons pour le comparer à Job. Et que Dieu est trop lointain au sens où il est trop haut, où il est vraiment Dieu. Et en même temps, il nous pénètre par sa proximité. Et c'est ça qui est à la fois terrible et consolant. Et Dieu est vraiment un paradoxe pour nous. Quand il s'irrite, la terre tremble. Quand il apparaît au Sinaï, eh bien, la montagne tremble, c'est normal. Les nations ne peuvent soutenir sa colère. Voici ce que vous direz d'eux. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre seront exterminés de la terre et de dessous le ciel. C'est encore ici une parole de scribe qui a glissé dans le texte. C'est très fréquent. Les moines qui ont recopié la Bible faisaient la même chose. Hein. De temps en temps, ils mettaient leur propre réflexion, et puis le suivant, ils disaient, tiens, il a oublié de mettre cela, et il l'insérait dans le texte.
Jean, dans le livre d'André Néer, justement, coïncidence, vous venez de penser à lui, à
oui.
Un beau livre, peut-être, et justement, il parlait de cette rite, hein,
oui.
ce gîte pour voyageurs, mais Le gîte, c'est pour Jérémie ou bien c'est pour Dieu?
Le quoi?
Le gîte. Le gîte, l'habitacle.
Le gîte, trois étoiles, là.
Oui.
C'est pour Jérémie ou bien c'est Dieu qui en a marre et qui veut chercher plus loin des hommes? C'est au verset 1.
Attends, je ne sais pas. Ne vous habituez pas à la voix des nations.
Attends,
je ne sais pas à quel.
Le fameux gîte pour voyageurs, il a perdu quelque part. Chapitre 9, début du chapitre 9. Qui me trouvera au désert en gîte pour voyageurs? C'est une parole que Dieu prononce ou c'est Jérémie qui en a marre de l'humanité?
Au chapitre 9, verset 1.
Ah, neuf, pardon, je n'avais pas entendu que c'était neuf, c'est pas mieux.
Mais il parle beaucoup.
Ah, qui me fournira. Ah, le gîte d'étape, là. Qui me fournira au désert un gîte d'étape que je puisse quitter mon peuple et loin d'eux m'en aller. Mais c'est à la fois Jérémie et Dieu.
Ah, c'est les deux,
ça. Ah, moi je dirais que c'est les deux. Parce que c'est justement le passage où Jérémie s'identifie à Dieu. Et où Dieu parle à travers Jérémie. Il s'identifie à la fois à Dieu et à son peuple. C'est ça que je trouve qui est extraordinaire chez Jérémie.
Proximité.
Cette proximité de Dieu. Il est à la fois énorme, et le Dieu, il dépasse, hein, donc les idoles. Et en même temps, il est tellement intérieur. C'est lui qui pénètre l'intériorité de chacun, le cœur de chacun. Pardon, je cherchais dans 10.
Mais il était resté trop longtemps dans l'Égypte, c'est ça qui avait du retard.
Oui, c'est vrai. Mais oui, ça arrive. Il a formé la terre par sa puissance, donc c'est le haut, hein, établi le monde par sa sagesse et par son intelligence, étendu les cieux. Quand il donne de la voix, c'est un mugissement d'eau dans le ciel, c'est le tonnerre, hein, c'est l'image habituelle, psaume 29. Il fait monter les nuages du bout de la terre, il produit des éclairs pour l'averse et tire le vent de ses réservoirs. Alors, tout homme se tient stupide, sans comprendre. Chaque orfèvre rougit de son idole. Hein? Ici, c'est une comparaison, hein, de Dieu qui domine la nature, et puis l'idole qu'un homme a fabriquée. Car ces statues ne sont que mensonges. À quoi manque le souffle? Elles sont un néant, un ouvrage ridicule. Au temps de leur châtiment, elles disparaîtront. Telle n'est pas la part de Jacob. La part de Jacob, ça c'est, hein, Dieu lui-même. Car il a façonné l'univers, et Israël est la tribu de son héritage. Son nom est le Seigneur des armées. Vous voyez, il joue sur cette proximité de Dieu et ce lointain de Dieu. Fais ton paquet. Décampe du pays, toi, l'assiégé. Maintenant, il repasse de nouveau, hein, aux habitants de Jérusalem, assiégés par Babylone. Car ainsi parle le Seigneur. Fais ton paquet, décampe du pays, toi, l'assiégé, car ainsi parle le Seigneur. Voici, je vais lancer au loin les habitants du pays. Cette fois-ci, et les mettre dans l'angoisse pour qu'ils me trouvent. Malheur à moi, quelle blessure. Ma plaie est inguérissable. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jérémie? Hein? Nous retrouvons la même chose. Et on voit cette identification qui est forte. Malheur à moi, quelle blessure. Ma plaie est inguérissable. Et moi qui disais... Ce n'est qu'une souffrance supportable. Or, ma tente est détruite. Toutes mes cordes sont coupées. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus personne pour remonter ma tente, pour tendre mes toiles. J'ai plus personne. J'ai plus d'aide. Ce sont les pasteurs, il prend ici un langage de pasteur, hein, la tente. Ce sont les pasteurs qui furent stupides. Ils n'ont pas cherché le Seigneur. Les pasteurs, hein, ce sont aussi, comme je l'ai dit, ceux qui doivent diriger le peuple. Ce sont les pasteurs qui furent stupides, ils n'ont pas cherché le Seigneur. Ils n'ont point réussi. Et tout leur troupeau a été dispersé. Nous avons ici l'image du pasteur. Écoutez la nouvelle. Elle est là. Un grand tumulte vient du pays du Nord pour réduire les villes de Juda en désert, repère à chacal. Et maintenant, nous entrons dans la prière de Jérémie, à laquelle nous pouvons peut-être nous identifier aussi. Tu le sais, Seigneur, la voix des humains n'est pas en leur pouvoir. Nous sommes terriblement limités. La voix des humains n'est pas en leur pouvoir. Et il n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses voies. Nous sommes incapables d'agir de façon purement pure, droite. Corrige-nous, Seigneur, mais dans une juste mesure. Pas de manière disproportionnée, s'il te plaît. Corrige-nous, Seigneur. Mais dans une juste mesure. Nous retrouvons le langage des psaumes ici. Hein? Sans t'irriter, pour ne pas trop nous réduire. C'est une magnifique intercession. Hein? Tu le sais, Seigneur. La voix des humains, n'est pas en leur pouvoir. Il n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses voies ou ses pas. Puis corrige-nous. On parle de façon universelle de tous, corrige-nous, Seigneur. Mais dans une juste mesure, sans t'irriter, pour ne pas trop nous réduire. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les races qui n'invoquent pas ton nom. Pour eux, ça va, hein. Tu peux te venger de ce côté-là, ça va, pas de problème. Elles ont dévoré et achevé Jacob, c'est-à-dire Israël, hein. Dévasté sa demeure. Voilà, petite prière, hein, avec une clausule de vengeance.
Là, ça dans les psaumes aussi.
Mais oui.
Mais ça, on est entre crochets maintenant.
Alors, on les met entre crochets dans
le... Ça heurte le cœur des religieux.
Dans les prières des temps présents. Dans les prières du temps présent, sont mis entre crochets. Mais voyez, ça veut dire que nous avons toujours un relent, hein, de vengeance, contre ou bien celui qui agit mal ou celui qui nous fait du tort. C'est normal, c'est humain. Mais est-ce que nous en faisons une prière? En faire une prière, c'est-à-dire prendre déjà distance avec cela. Ne pas nous laisser enfermer par ces images de vengeance. Et donc, les présenter au Seigneur, c'est ce que nous trouvons dans les psaumes de vengeance, justement. Et puis,
tu avais dit, quand on avait vu les psaumes, que c'était une façon de, comme des prières de guérison, en reconnaissant que ça nous habite, et de présenter sous le regard de Dieu. J'ai lu je ne sais plus quel bouquin sur les psaumes, dans ce n'est pas chrétien, hein, comment est-ce possible? Et c'est pas du tout, cette idée ne leur a pas du tout effleuré, que ça pouvait peut-être une thérapie, même psychologique, de lire un psaume où on dit « fracasse la tête de mes ennemis », etc. Parce qu'au fond, ça nous a vu.
Ce sont des idées et des images que nous avons. Mais il ne faut pas les refouler. C'est là qu'est l'élément thérapeutique. Au lieu de les refouler, on les présente pour que ça soit transformé. Mais la plupart du temps, nous restons avec ces images. Et alors, on dit, c'est pas chrétien. Et puis, on les refoule davantage. Et elles reviennent, évidemment, avec un peu plus de vigueur. C'est généralement comme ça, hein, quand on refoule. Mettez un chien, hein, dans le coin, et puis il devient fou. Hein. Et alors, vous avez ce beau passage du chapitre 11. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Et vous remarquerez que Jérémie se glisse constamment dans cette parole de Dieu. Parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères quand je l'ai tiré de ce creuset, le pays d'Égypte. Les paroles de cette alliance. Voilà donc l'alliance qui vient, qui revient, est déjà venue, mais de façon timide. Et maintenant, ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, c'est-à-dire de cette communion avec moi, que j'ai prescrite à vos pères quand je les tirai de ce creuset, le pays d'Égypte, quand je les ai libérés. Je leur dis, écoutez ma voix et conformez-vous à tout ce que je vous ordonne. Alors, et voilà la parole d'alliance, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Pour accomplir le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner une terre où ruisselle le lait et le miel, comme c'est le cas aujourd'hui. Je répondis, oui, Seigneur. Et le Seigneur me dit, dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem, proclame ceci. Écoutez, toujours, hein, écoutez, écoutez les paroles de cette alliance. Écoutez les paroles de cette alliance et les observez. Si vous écoutez, vous allez observer. Car j'ai instamment averti vos pères quand je les fis monter du pays d'Égypte. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai répété sans me lasser. Qu'est-ce qu'il a répété ? Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Qu'est-ce que c'est qu'écouter la voix du Seigneur ? C'est d'abord cesser de m'écouter moi. Et puis écouter l'autre. Écoutez ma voix. Or, on n'a pas écouté, ni tendu l'oreille. Chacun a suivi, il revient là-dessus, le penchant de son cœur mauvais. Ça, c'est tout à fait deutéronomiste. Chacun a suivi le penchant de son cœur mauvais, son envie. Alors, j'ai accompli contre eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais prescrit d'observer et qu'ils n'ont pas observé. C'est ce qu'on appelle dans le Deutéronome justement les bénédictions et les malédictions. Hein, vous avez ça au chapitre 28 et 29 du Deutéronome. Et cela a sorti toujours le... l'entrée dans l'alliance. Je reprends par exemple le chapitre 28 du Deutéronome, le début. Si tu obéis vraiment à la voix du Seigneur ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. On pourrait comprendre, donc tu deviendras le maître des nations, c'est pas ça. Le Seigneur t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Tu sauras comment on vit vraiment en homme. Toutes les bénédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix du Seigneur ton Dieu. Tu seras béni à la ville, tu seras béni à la campagne, etc. Mais c'est vrai que dans le Deutéronome, on reste encore à des récompenses matérielles, extérieures. Le Seigneur fera de toi le peuple qui lui est consacré. C'est-à-dire, tu seras vraiment l'intermédiaire entre Dieu et les nations. Ainsi qu'il t'a juré, si tu gardes les commandements du Seigneur ton Dieu, si tu marches dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom du Seigneur. Se diront, tiens, C'est quand même chic la manière dont ils vivent. Et ils te craindront. Et puis alors, bien sûr, toujours la récompense matérielle, le Seigneur fera te fera surabonder de biens, etc. Mais si tu n'obéis pas, c'est l'envers, si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur ton Dieu, ne gardant pas ses commandements ni ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Ces bénédictions et ces malédictions, c'est ce qu'on appelle la mise en liberté de l'homme. Tu deviens responsable. Tu sais que la manière de me plaire, c'est ceci. Tu sais que quand tu ne fais pas cela, tu me déplais. Maintenant, agis en connaissance de cause. C'est ce que des parents font pour leurs enfants. Hein. On leur apprend la véritable liberté. Et puis, il revient sur ces idées que nous avons déjà vues. Mais c'est en quelque sorte, ici, ce chapitre 11, un résumé. Le Seigneur me dit, au verset 9, du chapitre 11, on s'est vraiment donné le mot chez les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés, chouve de nouveau, aux iniquités de leurs ancêtres, qui refusèrent d'écouter mes paroles. Les voilà, eux aussi, à la poursuite de dieux étrangers, pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance que j'avais conclu avec leur père. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, voici, je vais leur amener une catastrophe à laquelle ils ne pourront échapper. S'ils me lancent un appel, je ne les écouterai pas. Alors les villes de Juda et les habitants de Jérusalem pourront aller lancer un appel aux dieux qu'ils encensent. Ces dieux ne leur apporteront pas le moindre secours au temps de leur malheur. S'ils ne veulent pas entrer dans une relation étroite, profonde, de confiance, alors qu'ils se remettent à leurs envies, on verra où leurs envies les conduiront. C'est vraiment une mise en liberté.
Et c'est Dieu qui s'efface.
Tout à fait. Tout à fait. À toi de voir. Tu as la responsabilité de ta vie. Prenons souvent, quand nous lisons cela au premier étage, je dirais, prenons souvent comme si Dieu, tout d'un coup, voulait se venger du fait qu'on ne le reconnaisse pas. Et alors il punit. Ça, c'est une manière encore, je dirais, enfantine ou infantile, en tout cas, de voir les choses. Non. C'est Dieu qui entre dans une relation intime avec l'homme. Et tant que nous ne sommes pas là, et tant s'en faut, hein, que nous y soyons arrivés, tant que nous ne sommes pas là, eh bien, nous regardons toujours les choses de l'extérieur. Ou nous référons toujours, c'est une autre manière de dire, nous référons toujours les choses à nous. Nous nous faisons, en quelque sorte, le centre du monde. Et où est notre centre? Notre centre, c'est dans l'alliance, comme le dit ici Jérémie. Notre centre, c'est dans la relation personnelle et intime avec Dieu. Le très haut et le très bas. À la fois, il reste Dieu et il nous aime. Car aussi nombreux que tes villes sont tes dieux, ô Juda. Nous encensons toujours l'œuvre de nos mains, nos villes, nos réalisations. Elles sont grandioses, mais elles ne sont que nos réalisations. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez érigé d'autels qui fument pour Baal. Toutes les réalisations humaines. Et c'est grandiose. C'est grandiose, mais ce n'est pas Dieu. Ça nous fait réfléchir. Et alors, toujours ce petit refrain, et toi, n'intercède pas pour ce peuple. N'élève pas leur faveur de prière suppliante. Hein, non, plus du tout. Car je ne veux pas écouter quand ils m'interpellent au temps de leur... Ils m'interpelleront au temps de leur malheur.
C'est une manière d'exprimer le drame du prophète lui-même.
Exactement. Exactement. Est-ce que Dieu va m'écouter? On sent cette angoisse intérieure. Ça, c'est Jérémie. Et c'est ça qui est très difficile à exprimer. C'est à la fois une grande angoisse intérieure, une grande inquiétude, et en même temps une très grande paix. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et personnellement, je crois que c'est vraiment la clé de la vraie liberté intérieure. Ne pas me laisser dominer par tout ce qui est, même si c'est très bon et très juste, par ce qui est moi, mon sentiment. Laisser tout décanter et purifier par la parole du Seigneur, dont nous allons voir qu'elle est à bout. Mais nous entrons petit à petit, justement, dans ce débat intérieur du prophète. Et nous allons voir qu'il va y avoir des moments extrêmement difficiles. Hein, ce qu'on appelle justement les confessions de Jérémie. Et nous allons entrer dans ce langage de Jérémie. Et je termine le chapitre 11, si vous voulez bien. Que vient faire en ma maison ma bien-aimée? Mon bien-aimé. Les manuscrits hésitent. Que vient faire en ma maison mon bien-aimé Israël ou ma bien-aimée Jérusalem? Sa façon d'agir est fourberie. Nous reprenons l'histoire du temple. Hein. Vous venez m'adorer dans le temple de Jérusalem et puis après ça vous allez tuer votre voisin. Ça va pas. Ça va pas. On peut tuer réellement et on peut tuer en parole. Hein. Que vient faire en ma maison ma bien-aimée? Sa façon d'agir est fourberie.